BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. À l'heure où un couple sur deux se sépare et où la durée moyenne des unions est de 4 ans, que penser d'un couple de 40 ans qui reste ensemble essentiellement par intérêt, le tout sans amour? Alors je vous parle pas de la vie conjugale de Jean Quatremer, mais bien de Londres et de Bruxelles. Bonjour Richard Corbett.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé travailliste britannique. Merci d'être avec nous, parler un français remarquable comme on va l'entendre. Vous, première question, vous êtes pour un divorce entre Londres et Bruxelles, Londres et l'Union européenne, ou contre ?
Ni divorce, ni séparation. Il reste quand même un peu d'amour.
Il reste un petit peu d'amour, d'accord. On va y revenir. Donc, on a un conseiller matrimonial ici autour de la table. Bonjour Guillaume Ballas, eurodéputé socialiste. Même question. Vous êtes pour un divorce entre Londres et Bruxelles ?
Non, mais j'aimerais bien qu'on revoie pas trop le contrat de mariage.
D'accord, très bien. Jean Quatremer, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Correspondant de Libération ici à Bruxelles. Vous n'étiez pas avec nous ces dernières semaines. Vous nous avez fait des infidélités avec des Chinoises.
Avec des Chinois, voilà. D'accord. Exactement. J'étais en Chine pendant 15 jours et je reviens légèrement inquiet pour l'Europe.
Bon, divorce ou pas divorce ?
Mais divorce, mais qu'ils partent. À un moment, il faut que les couples se séparent. Quand ça va pas, il faut pas chercher à les rabibocher. Moi, je dis que la chance de l'Europe, pas la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne va disparaître de la carte du monde. Mais notre chance à nous, c'est que la Grande-Bretagne parte. Sacrifiez-vous, comme vous l'avez fait en 14-18, en 39-45, pour notre bien commun. Partez.
Londres, Bruxelles, le divorce est-il la meilleure solution ? Vous l'avez bien compris, on a autour de la table aujourd'hui deux conseillers matrimoniaux et la mauvaise copine qui dit « Mais quitte-le, c'est un tocard, celui-là ». On a tous une comme ça dans notre entourage. En l'occurrence, c'est Jean Quatremer. Voilà, le divorce avec, bien entendu, je rappelle, les fondamentaux, ce vote autour du Brexit, ce référendum au Royaume-Uni le 23 juin. Le divorce est-il la meilleure solution ? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter. Hashtag 500ME. Alors, on va filer la métaphore. On n'a jamais peur d'être lourdingue dans cette émission. Avec l'histoire du couple entre les Grands Bretons et l'Union européenne. Alors, dès le départ, quand même, Richard Corbett, ça commençait mal. Parce que vous, les Britanniques, ne vouliez pas, je parle vraiment du tout début de l'Union européenne, enfin de la construction européenne, vous vouliez pas vous joindre au père fondateur.
On est arrivé en retard, comme même dans le couple. Des Coupes d'Europe de football. La première année, on n'y participait pas. Donc, on est toujours en retard, mais on arrive quand même.
Bon, vous avez voulu quand même, vous avez fait acte de candidature, 63, 67.
Bloqué par la France.
Et bloqué par la France. Pourquoi Jean Quatremer, il ne voulait pas le général de Gaulle ?
Le général de Gaulle ne voulait pas pour deux raisons. La première, c'était à cause de l'atlantisme. Donc, on pensait, le général de Gaulle qui estimait que la Grande-Bretagne était évidemment une sorte d'agent des États-Unis. Et aussi parce que je crois que le général de Gaulle avait compris que la Grande-Bretagne, à l'intérieur de l'Union européenne, à l'époque de la CE, ferait tout pour bloquer les développements de l'Union européenne, notamment dans les domaines de la défense et de la politique étrangère. C'était plutôt bien vu. Grand homme.
Finalement. Sauf paradoxe, c'est quand même la France qui a bloqué le CED en 54. C'est
la France. La communauté européenne de défense.
Oui. Donc défense. C'est la France qui est le seul pays à jamais avoir boycotté l'Union européenne. La politique, la chaise vide, vous vous rappelez.
Attendez, Richard Corbett, on parle du Royaume-Uni là aujourd'hui. Oui. On ne parle pas de la France. Hein.
Mais
c'est précisément pour dire, mais parfois il y a un pays ou l'autre ou un autre qui a eu des problèmes. C'est vrai. Mais chaque fois on a pu quand même convaincre le pays en question et de quand même avancer depuis.
Sachant que dans la vision Guillaume Ballas, là on revient juste en 46 avec Winston Churchill qui avait parlé d'États-Unis d'Europe, qui avait dit qu'il était pour une Europe forte, mais a priori dont la Grande-Bretagne serait amie et protectrice, pas forcément une Europe forte avec le Royaume-Uni.
Oui, même historiquement, le débat il commence avant, pendant la guerre, avec l'idée un moment d'union franco-britannique qui a existé, qui a échoué, et qui ensuite s'est transformée en une espèce de pas de deux entre le Royaume-Uni et la construction européenne. Néanmoins, il faut aussi comprendre, évidemment, que l'enjeu principal, c'était quand même la relation franco-allemande à la sortie de la guerre, et c'était bien normal, et la pression du communisme soviétique. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas 30 solutions. Il fallait à la fois qu'il y ait un accord franco-allemand, ce qui est la base sur laquelle s'est construite après la CEE, et il fallait en même temps qu'il y ait une bienveillance de la part du Royaume-Uni, parce qu'en termes militaires, c'était eux qui pesaient. Voilà. Donc on était dans cet équilibre des forces qu'il fallait jouer et qui a duré jusqu'à la disparition du général.
Bon, ils sont rentrés en 73, Jean, et ça a déjà commencé à mal tourner. Au débat, quand ils rentrent, c'est avant tout pour le libre-échange, abattre les tarifs douaniers, les barrières douanières, etc. Ils voient l'Europe, les Britanniques, comme un marché.
En fait, la Grande-Bretagne...
C'est par intérêt, c'est un mariage d'intérêt.
Disons que la Grande-Bretagne voulait effectivement une Europe organisée, mais un peu comme on organise les tribus africaines. Un peu comme la Grande-Bretagne a organisé ses colonies, tracé les frontières. Et là, ils voyaient, ils n'avaient plus envie. Je veux dire, ils avaient été intervenus en 14-18, 39-40. 45, vraiment les Européens, les continentaux commencent à nous fatiguer. Donc il faut impérativement qu'ils s'organisent. Mais l'idée d'un marché organisé, d'un marché avec une intervention étatique, parce que dès le départ la CE, c'est l'idée qu'il y a une puissance étatique qui va intervenir sur les marchés, ça ils n'en veulent pas. Donc ils créent l'Association Européenne de Libre-Échange, l'AELE. Et elle échoue, en fait ça marche pas et ils voient que l'Union Européenne commence à bien fonctionner. Et donc ils rejoignent. Margaret Thatcher a fait campagne pour l'adhésion. Ensuite, et à peine ont-ils adhéré que paf, ils décident de faire un référendum. C'est le premier référendum, parce qu'on croit que c'est le premier référendum là. Ils ont fait un référendum en 75, où les conservateurs ont fait une campagne extrêmement forte en faveur du oui. Mais dès le départ, il a fallu consulter le peuple pour confirmer. C'est une démonstration d'ailleurs qu'un référendum ne règle absolument rien. Parce qu'ils ont confirmé en 75, ils doivent reconfirmer en 2016, ils vont reconfirmer en 2030, en 2060, etc. Il y a un véritable problème britannique.
Donc Richard Corbett, ça a commencé un petit peu à dérailler une fois que l'Europe, comme disait Jean, s'est mis à rêver d'un projet politique. En gros, c'est ça.
Oui, mais quand Jean parle d'une intervention étatique dans le marché intérieur européen, ça c'est quelque chose où le Parti travailliste au Royaume-Uni, en Angleterre, est très favorable. L'Europe a bien changé depuis 1975. Ce marché intérieur, le plus grand marché au monde, c'est comme un marché avec des règlements pour protéger les consommateurs, les travailleurs, l'environnement, pour faire contrepoids aux multinationales. C'est pour ça que chez nous, les plus fervents opposants de l'Union européenne, c'est les ultralibéraux. C'est ceux qui veulent que les grandes corporations puissent tout faire sans règlement.
Mais ça, c'est inversé aujourd'hui.
C'est pour ça, c'est parce que l'Union a changé d'une bonne façon, d'ailleurs.
Avant de donner la parole à Guillaume Ballas, juste pour comprendre, aujourd'hui, les conservateurs, ils sont pour
ils sont
le
divisés,
maintien dans l'Union européenne, globalement. Ils sont divisés, oui, mais les travaillistes aussi. Globalement, les conservateurs, donc, tout le monde, les ministres et autres, ils ont leur liberté de parole, donc c'est pour ça que c'est compliqué à gérer pour David Cameron, mais globalement, en tout cas, David Cameron, lui, le Premier ministre conservateur, il est pour.
Oui, mais
l'Union européenne, le maintien dans l'Union européenne.
Mais son parti, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons un référendum, c'est qu'il y a une guerre civile dans son parti. Sont divisés de haut en bas.
D'accord.
Tandis que le Parti travailliste, c'était unanime à notre congrès. Il n'y a aucun shadow minister.
Unanime, il n'y a pas des frondeurs.
Non, il n'y a aucun délégué à notre congrès.
D'accord.
Qui a voté contre. Il y a, je pense, sur 230 députés, il y a 5 qui sont des frondeurs, mais c'est minuscule. Donc le Parti travailliste est
unifié. Le Parti socialiste frondeur.
Oui, c'est pas un Parti socialiste.
Oui, mais c'est sur cette question, sur d'autres questions, sur cette question, le Parti travailliste est assez unifié. D'ailleurs, il y a aussi les Verts, les Libéraux, le Parti nationaliste écossais, le Parti nationaliste gallois, et en Irlande du Nord, tout sauf un des partis. Même Sinn Féin, qui d'habitude, ils ont des badges qui disent les Britanniques dehors, de l'Irlande du Nord, ils portent maintenant des badges, les Britanniques dedans, parce qu'ils veulent
qu'on nous reste l'histoire. Guillaume Ballas, globalement quand même les Britanniques, ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient dans cette relation de couple avec l'Europe.
Oui, et justement, il faudrait faire très attention à la suite, parce que moi, je suis partisan plutôt qu'il reste. Mais c'est vrai que les conséquences du fait qu'il reste peuvent être désastreuses. Moi, j'entends beaucoup de discours en France, Alors, on peut parler de la Pologne, on peut parler de ça, mais j'entends beaucoup de discours en France et pas dans les franges extrémistes nationalistes, y compris dans mon propre parti, et pas la frange ultra-gauche, hein, de gens qui commencent à dire finalement le modèle britannique, c'est pas mal. Une Europe à la britannique où il y a une souveraineté nationale, le grand marché, et puis des opt-out, c'est-à-dire des conditions favorables sur tel et tel
des
sujet, négociés au fur et à mesure.
Finalement, l'Europe à la carte.
Voilà, l'Europe à la carte, finalement, c'est peut-être pas si mal. Et je trouve qu'il y a une montée aujourd'hui de ces raisonnements, moi qui m'inquiète beaucoup, parce que je ne vois pas comment on peut peser dans les 50 années qui viennent là s'il n'y a pas quand même un minimum de coordination politique. Et je ne vois pas comment fabriquer cette coordination politique avec des considérations particulières pour chaque pays, des possibilités de faire autrement. C'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est l'exemple donné par la Grande-Bretagne, en fait.
Est-ce que ça, c'est le problème aussi, finalement, Jean, le fait que la Grande-Bretagne a toujours eu un pied dedans, un pied dehors ?
Absolument, et c'est un problème, mais surtout un problème pour le futur. Moi, je rejoins complètement Guillaume sur cette affaire-là. C'est-à-dire que s'il reste, on va avoir un Premier ministre renforcé comme jamais, puisque ça aurait été le seul Premier ministre au cours des 15 dernières années à être capable de gagner dans un pays eurosceptique un référendum sur l'Europe. Un truc incroyable. Il a réussi à gagner ce référendum. Donc il va arriver et lui et ses successeurs vont nous emmerder pour les siècles des siècles, négociant, s'opposant à tout approfondissement, demandant un droit de regard sur la zone euro. Et les Européens...
Parce que le chantage,
paniqués,
ça marche.
Oui, tellement paniqués les Européens, les autres, les partenaires, qui vont leur accorder tout ce qu'ils demandent. Et c'est-à-dire que c'est moins le risque de voir peut-être des demandes françaises ou allemandes pour une Europe à la carte que le fait que la Grande-Bretagne, elle va pousser son avantage. Et ça sera vrai pour les conservateurs, ça sera vrai pour les travaillistes. Et c'est pour ça que le danger est là. En plus, je pense que la Grande-Bretagne, si elle part, elle n'accélère. Le seul risque qu'il y a, c'est que ça accélère le délitement de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne est en train de se déliter. Elle se casse la figure. Elle est en train de mourir. Bon. Donc, je pense que. Et là, je ne suis pas un partisan du choc salutaire. Je ne suis pas un partisan du choc salutaire. Mais là, je pense que c'est le seul moyen que les dirigeants européens prennent conscience que quelque chose de dramatique est en train de se passer. Donc, il faut. C'est pour ça que je souhaite votre départ, non pas par méchanceté, je vous aime bien moi les Britanniques, mais il y a un moment ou à l'autre, il faut que nous-mêmes on se regarde et on se dise, peut-être que c'est nous qui posons un problème et ça nous poussera peut-être à faire ce saut fédératif dont on rêve.
Voilà, donc si lors de ce référendum du 23 juin au Royaume-Uni, ceux qui votent pour le fait de rester dans l'Union européenne l'emportent, et bien clairement, selon Jean Quatremer, c'est David Cameron qui portera la culotte dans le couple entre Londres et Bruxelles. On continue la discussion juste après un court message publicitaire avec Richard Corbett, Guillaume Ballas et Jean Quatremer. Le divorce est-il la meilleure solution ? À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Elle ne supporte plus sa présence, mais elle reste avec lui. Il n'en peut plus de ses reproches, mais il ne la quitte pas. On parle de Londres et de Bruxelles. Avec cette question, le divorce est-il la meilleure solution ? On l'a compris, dans trois semaines, c'est le référendum, le 23 juin, sur le Brexit, British Exit. Les Grands-Bretons vont-ils nous quitter ? On en discute avec Richard Corbett, eurodéputé travailliste, donc britannique, Guillaume Ballas, socialiste, Jean Quatremer, de Libération. En fait, ça fait, sur le papier, beaucoup de gens de gauche autour de cette table, mais bon, a priori, Libération, Jean Quatremer, il n'est pas va. De gauche. Guillaume Ballas, on va dire qu'il est socialiste, mais il est quand même frondeur, et puis...
Mais il est très à gauche.
Et puis il est très, très, très à gauche. Et puis Richard Corbett, bon, c'est du socialisme à la britannique, hein, quand même. On parle donc du couple Bruxelles-Londres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout ça a commencé avec le traité de Lisbonne de 2009. Jusque-là, il n'y avait pas cet article 50 qui permet à un pays de sortir de l'Union européenne. C'était un peu comme à Malte. À Malte, jusqu'il y a peu, Richard Corbett, le divorce était interdit. C'était un pays très religieux, interdit de divorcer là-bas. Alors, je ne sais pas quelles sont les statistiques maintenant si tout le monde divorce à Malte, mais là, tout de suite, on voit que les Grands-Bretons, vous profitez de cette nouvelle clause dans le traité de Lisbonne et il y a donc ce référendum organisé.
Sauf à Malte, le divorce était interdit. Avant, dans les traités, c'était le silence. Maintenant, on a une procédure écrite. Une procédure, d'ailleurs, que je souhaite ne sera jamais utilisée parce que, de toute façon, on n'est pas très favorable à celui qui veut quitter.
Le problème dans un couple, Guillaume Ballas, c'est que les amis doivent toujours choisir. les États-Unis, par exemple, qui est quand même l'allié, l'ami historique du Royaume-Uni, enfin le grand frère, on va dire, eux, a priori, ils opteraient plutôt pour l'Union européenne.
Bah, et c'est surtout qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que l'allié géostratégique habituel, le Royaume-Uni, qui a toujours été si utile aux États-Unis, notamment pour faire en sorte que l'Union européenne ne se renforce pas trop, pour le coup, reste. Ça, je pense que c'est vrai. Il y a peut-être un autre élément aussi dans le discours d'Obama, c'est son inquiétude géopolitique globale. Oui. C'est-à-dire qu'il sent bien qu'aujourd'hui l'Europe est affaiblie. On est quand même très proche et à la frontière du Moyen-Orient et de tout ce qui s'y passe. Et je ne crois pas qu'il se dise qu'aujourd'hui affaiblir l'Union européenne face à la Russie au Moyen-Orient est une bonne chose. Mais dans tous les cas, ça va poser une question. C'est que ce soit oui ou que ce soit non, ça va être aux Européens continentaux de se prendre en charge. Si jamais il n'y a pas une initiative un peu frappante et qui va de l'allant et qui a du sens en juin-juillet ou en septembre-octobre de la part de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, etc., etc., alors pour le coup, je ne donne pas cher, en effet, de l'Union européenne dans les mois qui viennent. Il y a une obligation de résultat, j'allais dire, pour ce premier cercle européen à se construire, que le Royaume-Uni reste ou que le Royaume-Uni parte.
Guillaume Balas, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez contre un divorce. Vous êtes le conseiller matrimonial de l'histoire. A priori, pourquoi personne ne parle ? Pourquoi François Hollande ne dit rien ?
Mais pour la
bonne parce que là, vous parlez d'une initiative après. Il y a peut-être des initiatives à prendre avant.
Ça a été demandé, tout simplement. Je ne sais pas si on a raison de l'accepter ainsi. Mais les gens qui sont les Anglais, enfin les Britanniques qui sont aujourd'hui favorables à rester au sein de l'Union européenne, nous ont demandé explicitement de ne pas en faire trop. Et de ne pas aujourd'hui annoncer, par exemple, un certain nombre de projets qui pourraient aller vers un peu plus de fédéralisme, par exemple, pour ne pas faire peur aux électeurs
britanniques. Comme Jacques Chirac avait demandé à José Manuel Barroso de ne pas intervenir en France en 2005 lors de la campagne, et c'est pour ça qu'il avait été interdit de plateau sur France 2.
Oui, et c'est le succès, avec le succès qu'on connaît.
Vous savez, si vous êtes... C'était le sens de ma pose question.
Bah, vous savez, ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous êtes à Bruxelles, vous ne savez pas qu'il y a un référendum en Grande-Bretagne. Parce que les instructions qui ont été données au sein de la Commission européenne, c'est de ne jamais en parler. Vous posez une question au porte-parole sur, par exemple, quelles conséquences pour les fonctionnaires britanniques, des choses toutes concrètes. Que vont devenir les directeurs généraux britanniques à venir? En cas de sortie, évidemment. Donc des questions qui sont très matériellement intéressantes. Refus total de répondre. C'est-à-dire que là, on est dans une boîte noire démocratique. Alors, il y a un débat démocratique en Grande-Bretagne, mais il nous est interdit, nous, de participer à ce débat qui, pourtant, nous concerne au premier chef. Et j'avoue que ça me pose des vraies questions sur le fonctionnement démocratique de l'Union européenne. Vraiment, ça me pose un problème fondamental, parce qu'on ne peut pas interdire le débat comme on est en train de le faire
justement,
aujourd'hui.
Justement, on va y revenir tout à l'heure dans le cadre des coulisses de l'Europe de Politico avec Maya Delabaume, avec l'homme de David Cameron ici à Bruxelles, qui a briefé, qui a coaché les responsables européens pour leur dire ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire, globalement, pour leur dire taisez-vous. Richard Corbett, si jamais ça passe, concrètement, on rentre dans une période d'incertitude totale, presque 10 ans d'incertitude. Oui.
C'est ça un des paradoxes de la situation, parce que tu as parlé tout à l'heure des négociations de Cameron pour avoir quelques petites concessions. En fait, c'était un peu... Le chantage, vous me donnez ça ou je quitte. Mais c'est le genre de chantage qu'on a vu dans un western, un parodie qui s'appelait Blazing Saddles, où le gangster va dans la banque, il me dit « Donnez-moi tout l'argent ou je me tire une balle dans la tête
».
Et cela a marché.
Ça a marché, bon, d'accord, Jean.
Mais les négociations seront extrêmement compliquées, parce qu'il faut bien voir que le droit européen, au cours de la durée du mariage, a impacté tous les aspects de la vie britannique et du droit britannique. Mmh. Donc il va falloir désemboîter l'ensemble des domaines, par exemple, comme les régimes matrimoniaux, le commerce, la concurrence, les champs de compensation.
Ça passe jusqu'au moment où, jamais on change la législation.
Mais ça va être
vous dirigeriez vers quel modèle, a priori qu'ils ont en tête? C'est plutôt la Suisse, plutôt la Norvège. Donc la Suisse, ce sont des accords bilatéraux avec l'Union européenne. La Norvège...
Ceux qui veulent quitter l'Union européennes sont tout à fait divisées sur ce sujet. Ils ont des vues tout à fait contradictoires, d'ailleurs. Il y en a qui disent qu'on va rester dans le marché intérieur. On va négocier, sans problème, bien sûr, un accord où on a tous les accès au marché intérieur. Tous les avantages sont les désavantages. Bon, mais si jamais on obtient ça, comme la Norvège, on est membre sans vote de l'Union européenne.
Est-ce que c'est dramatique pour les Britanniques de ne pas avoir voix au chapitre à Bruxelles, surtout?
Alors, l'autre moitié de ceux qui veulent quitter disent non, on va complètement quitter l'Union européenne. On va going global. On va faire des accords avec le reste du monde, l'Amérique, le Commonwealth, etc. C'est pour ça que le commentaire d'Obama était si intéressant, parce qu'il disait, on va se rapprocher de l'Amérique. Et Obama dit, attention, hein, c'est pas si facile. Et à ce moment-là, il dit, taisez-vous, ce n'est pas facile. Ne mêlez pas vous de nos affaires.
Ouais. Donc, quel vous, paradoxe. Vous proposez quoi, quel paradoxe. Vous, ceux qui militaient pour le Remain. Ah, oui, non, mais oui, je suis d'accord. Oui. Mais globalement, on sait bien que les Britanniques ne sont pas satisfaits de la situation. Ils voient bien que l'Union européenne ne fonctionne pas bien. En même temps, elle leur impose beaucoup de choses. Vous leur proposez quoi? Vous leur dites, OK, si on reste, voici ce qui va changer, ou bien c'est le statu quo?
Non, mais nous restons pour participer à l'évolution future de l'Union européenne. L'Union européenne est une négociation sans cesse, après tout. Elle ne s'arrête pas. Surtout les différentes politiques se réforment au fur et à mesure du temps. Alors nous avons tous les moyens de trouver des accords qui sont bons pour nous et bons pour l'Europe si nous restons. Si nous sommes dehors, on n'a pas de
problème. Et vous faites rêver les gens en leur disant ça?
Oui, ils sont quand même conscients, quand on parle de ce sujet, qu'il vaut mieux avoir son mot à dire qu'accepter le règlement fait seulement par les autres.
Le diktat de Bruxelles, pour citer François Hollande-Guillaume Balas.
Deux points quand même importants, c'est si jamais vous restez, il y a une chose quand même qui ne peut pas être acceptable. Et je sais bien que c'est dans la négociation, même si en fait ce qui a été écrit est flou. C'est que vous pouvez pas vous occuper des affaires de la zone euro si vous n'êtes pas dans la zone euro. Ça, je crois que c'est quand même un élément absolument essentiel aujourd'hui, de crédibilité politique même de la monnaie unique, y compris pour un peuple, par exemple, comme les Français. Parce que si jamais on dit, en fait, on peut ne pas participer à une monnaie, mais on a quand même voix au chapitre sur la manière de la gérer, alors on sait, nous, qu'on ne fera jamais d'union politique, et donc le destin européen de la France, il vaut mieux faire autre chose, très sincèrement. À un moment, la question se posera pour des pro-européens convaincus de vouloir faire autre chose.
Ça, c'est assez accepté, parce que un des aspects de cet accord, que je ne suis pas fanatique de Cameron, c'est de dire, nous n'allons pas bloquer une intégration plus poussée de la zone euro, et en contrepartie, pour les choses qui sont plus larges que le marché intérieur, la zone euro ne va pas faire un bloc pour imposer aux autres. Donc il y a un accord assez équilibré.
Alors justement,
ça.
J'en viens au deuxième point, c'est qu'il faut faire attention sur l'aspect social. Moi j'entends bien, les Britanniques, ils ont eu 300 000 personnes qui sont arrivées en 2015, dont 180 000 Européens, donc je comprends qu'il y a quand même un problème concret à gérer. Donc ils demandent de suspendre pour un temps les prestations sociales pour être sûr que les gens ne viennent pas faire du tourisme social, etc.
Après avoir été ceux qui ont poussé un maximum pour un élargissement à l'Est.
Absolument, absolument. Et donc d'ailleurs, justement, c'est à ça que je veux en venir, c'est que du coup, les pays de l'Est sont furieux en disant, mais vous êtes en train de porter atteinte au marché intérieur. Et c'est là où il faut que nous aider aujourd'hui à construire une convergence sociale au niveau européen, pas simplement s'en extraire, mais il faut que les Britanniques poussent justement la logique, c'est de construire une convergence sociale.
Jean, vous étiez autour de la table le seul, là pour conclure, le seul à prôner un divorce.
Absolument.
Mais
un
quart, on disait tout à l'heure qu'un couple sur deux se sépare en moyenne au bout de 4 ans. Là, ça fait 40 ans de vie commune. Mais un quart des couples mariés, j'ai fait toutes mes petites stats, un quart des couples mariés ne divorcent pas dans l'intérêt des enfants. Il y a quand même des intérêts en jeu.
Il y a des intérêts, mais quels sont les enfants en question? C'est le vrai problème. Est-ce que les enfants, ça serait pas, par exemple, les pays de l'Est? Quand on voit ce qui se passe actuellement à l'Est, le fait que ces pays, ne partagent pas nos valeurs démocratiques, nos valeurs en matière de droits de l'homme, que ces pays sont en train de vivre une dérive autoritaire comme on n'a jamais vu, que au final on se retrouve avec des gens qui sont en train de violer l'état de droit sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est vrai en Pologne, c'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Slovaquie, c'est vrai en Tchéquie, c'est vrai maintenant en Croatie. On vient de nommer un ministre de la culture révisionniste. Si c'est ça les enfants, pour l'instant c'est ça, parce que qui nous a poussé à l'élargissement, qui a voulu l'élargissement, c'est la Grande-Bretagne.
Tu veux encore rester seulement les 6 membres fondateurs.
C'est une bonne question.
Le noyau dur.
Moi, je pense qu'il faut maintenant mettre en place clairement une Europe des cercles. C'est-à-dire que vous avez un noyau intégré qui partage un certain nombre de valeurs, de politiques, un gouvernement économique et politique, et puis un cercle qui est le marché intérieur, et on ne vous demande rien. Je veux dire que si les Polonais veulent interdire le
noyau
divorce, c'est leur problème.
Le plus dur, c'est la France, tout ça
Non, c'est la zone euro.
Oui.
Moi, je pense que c'est la zone euro.
Voilà, juste après le journal, les chroniques très attendu de Courrier International et de Politico, va notamment revenir sur ces briefings britanniques ici à Bruxelles pour dire aux eurocrates, mais taisez-vous. À tout de suite.
BFM Business,
500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet+. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours dans la capitale européenne. Cette émission s'appelle toujours 500 millions d'Européens, peut-être bientôt 440 millions d'Européens, peut-être 445 millions d'Européens si les Écossais finalement sortent du Royaume-Uni, réintègrent l'Union Européenne. Toujours avec nous autour de la table, Guillaume Balas, eurodéputé socialiste français, Jean Quatremer de Libération, Richard Corbett, grand breton européen, encore maintenant pour quelques semaines, eurodéputé travailliste et la pétillante Maya de la Baume de Politico nous a rejoint. Bonjour Maya. Voilà, bah écoutez, je peux dire aussi que Jean Quatremer, la prochaine fois, je vais vous qualifier de pétillante aussi. Maya, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Du silence des Britanniques avant le référendum. Ils ne peuvent plus parler trop sur la question, mais à Bruxelles, c'est différent puisque on brief un peu les diplomates sur ce qu'ils peuvent dire ou pour cadrer un peu le message avant le référendum.
Sachant que c'est aussi silence radio du côté des autorités européennes. Et puis, nous serons rejoints dans quelques instants par Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, pour sa revue de presse européenne. On va bien entendu parler du Brexit. On va aller regarder ce qui se passe du côté de la très grande presse britannique, Richard Corbett. Je ne voudrais pas trop chambrer en tant que journaliste français, mais bon, on va également parler de l'Allemagne. On va aller en Suisse. Et puis on va aller en Croatie demander le programme de cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Oui, pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. Alors Maya, silence radio depuis vendredi.
Oui, alors silence radio en Angleterre bien sûr, c'est pas, ça ne concerne pas les leaders européens. Mais en fait, du coup, les Britanniques ne peuvent plus s'exprimer, mais les Européens peuvent tout à fait dire ce qu'ils pensent. Alors simplement, ici à Bruxelles, l'ambassadeur britannique a décidé qu'il allait faire un peu de message control, c'est-à-dire cadrer un peu le message, même pour les Européens. Et il a fait quelques séances. Il est allé voir Manfred Weber, qui est le président des conservateurs ici, pour lui dire...
Ici, au Parlement européen.
Au Parlement européen, pour lui dire, bon, écoute, pas trop de vocifération, l'argumentaire, qu'il reste un petit peu mesuré, parce qu'on veut pas trop non plus de trop d'exubérance. Et du coup, voilà, il essaye un peu de cadrer le message. Parce qu'on sait qu'au Parlement, les esprits, en règle générale, sont un peu échauffés, donc il faut souvent les calmer un peu.
Globalement, Jean, on sent que la Commission européenne est très frileuse sur la question. Elle ne veut pas s'exprimer.
C'est tout à fait, je vous dis, étonnant. Il n'y a pas de débat démocratique sur une chose qui nous concerne, nous, les Européens, au premier chef. Largement autant que les Britanniques. Parce que qu'ils partent ou qu'ils restent, ça aura des conséquences, comme on vient d'en débattre. Et je trouve ça incroyable, ce refus de dialoguer. Bien, posez-vous la question. Quand est-ce que Jean-Claude Juncker a parlé la dernière fois du Brexit ? Je veux dire, quand est-ce que François Hollande ou Angela Merkel ou les députés organiser un débat sur le Brexit. Et on n'en parle pas. Silence. Les conséquences, c'est-à-dire le 24 juin matin, si jamais les Britanniques votent non, le vendredi matin, mais ils ont préparé un plan B, ils ont préparé...
Et ils disent aux journalistes qu'il n'y a pas de plan B. Ça fait partie de la communication.
Mais c'est ça. Le problème, c'est que si jamais c'est un non, ils vont se retrouver vraiment gros gens comme devant, comme on dit en français.
Alors, il y a quand même dans la stratégie du zéro commentaire du côté de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il a quand même réagi. Il a commencé par réagir suite à l'attaque de Boris Johnson contre l'Union européenne, en gros en comparant Bruxelles et l'Union européenne à Hitler. Boris Johnson,
toujours subtil,
maire de Londres, qui a des vues sur Downing Street, l'ancien correspondant ici à Bruxelles. C'est quoi cette idée d'ailleurs, Richard Corbett, de comparer l'Union européenne à Hitler ?
Oui, c'est Boris Johnson qui est tout à fait farfelu, ça on le sait. Ça attire l'attention, bien sûr, des médias. Mais quand tu disais tout à l'heure que les Britanniques doivent se taire, tu parles bien sûr des fonctionnaires et des diplomates britanniques.
Pas les eurodéputés, donc faites partie.
Comme dans toutes nos élections nationales, 4 semaines avant le vote, les fonctionnaires doivent être tout à fait neutres. Ils sont interdits de prendre la parole. C'est pour ça que ce serait un peu choquant pour le moyen des Britanniques si les fonctionnaires européens sont libres de dire toutes sortes de choses quand les fonctionnaires britanniques doivent se taire. C'est pour ça qu'il y a ce taisez-vous. Bien sûr, au niveau politique, on peut le faire. Mais là, il faut faire attention. Dans n'importe quel pays, intervenir de l'extérieur en disant je suggère que vous votez comme ci, comme ça, c'est très, il faut le faire de façon très mesurée.
En attendant Guillaume Balas, Martin Selmayr, le directeur de cabinet, le puissant directeur de cabinet allemand de Jean-Claude Juncker à la Commission européenne, il avait fait au moment du G7, il a fait un tweet dans lequel il a dit imaginez de voir un Royaume-Uni, un G7, avec Boris Johnson, qu'il a mis dans le même panier que Donald Trump, que Marine Le Pen et que Beppe Grillo. Il a dit, en gros, c'est à ça que pourrait ressembler le G7 demain.
Oui, mais alors par rapport à ça, il faut quand même dire les choses. C'est de la faute de qui ? Bah, de nous, c'est-à-dire de ceux qui, justement, refusent ce nationalisme et ce populisme et n'arrivent pas à le combattre, puisque visiblement, nous n'arrivons pas à donner aujourd'hui un projet qui fasse plus envie que ce populisme qui monte. Alors, tout le sujet, il est maintenant de savoir qu'est-ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il va falloir avoir un moment le courage de proposer des choses qui sont en rupture avec l'Europe telle qu'elle est. Moi, je ne suis pas amoureux de l'Europe telle qu'elle est. Je veux aussi une autre Europe. Mais une Europe, justement, une autre politique en Europe. Exactement. Et donc, il faut qu'on ait ce débat et il faut pouvoir l'avoir vite.
Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Le patron, le directeur de la rédaction de Courrier International, en ligne depuis Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on commence évidemment votre revue de presse autour, en ce mois de Brexit. On va beaucoup parler de ce référendum. Alors, dans le Spectator, vu de Londres, moi, femme, je vote pour qu'on quitte cette union de machos.
Oui, c'est un papier, ça fouette ce papier. C'est un papier qui est signé Julie Burchill, c'est une journaliste, écrivain, elle s'est déjà fait remarquer dans le passé par ses coups de gueule, et là elle en pousse un, mais alors violent contre l'Union Européenne. Et alors elle dit, je suis partisane du Brexit depuis des décennies, avant même que le nom existe, elle nous explique. La campagne contre le Brexit joue sur nos peurs en évoquant des angoisses comme la hausse des dépenses et de l'insécurité. Alors c'est ça son truc. Elle est persuadée, cette journaliste, qu'il y a une sorte de grande manipulation psychologique et qu'on lui serine tous les jours, tu ne seras rien sans moi, et elle en a assez, et c'est ce qu'elle explique. Le Royaume-Uni tout entier s'entend dire sur un ton condescendant et arrogant ce qu'il doit faire. Et ben voilà, et donc elle écrit ce grand papier et elle dit, elle termine, elle conclut très logiquement, vive le Brexit.
Tous les patrons d'ailleurs, ils signent des tribunes hein, en disant qu'une sortie de l'Union européenne découragerait les investissements au Royaume-Uni, ferait monter le chômage. Il y a même eu un rapport gouvernemental qui a chiffré à environ 5 500 euros par foyer le coût d'un Brexit. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas la meilleure façon de convaincre les gens de vouloir rester dans l'Union européenne?
Les prédictions économiques, d'habitude, on peut toujours trouver un qui va dans ce sens ou dans l'autre sens. Mais cette fois, ce qui est frappant, c'est que toutes les prédictions, que ce soit internationales, du FMI ou de la Banque mondiale, que ce soit universitaires, London School of Economics ou autres, que ce soit la Banque d'Angleterre indépendante, que ce soit la Treasury, ils sont assez unanimes avec des chiffres qui varient quand même un peu, mais quand même tous dans la même direction. Ce serait une catastrophe économique de sortir de l'Union européenne.
Bon, mais en tout cas, là, cette éditorialiste, enfin celle qui signe cet édito dans le Spectator, quand même, Maya, elle joue la carte sensible aussi. En gros, elle dit, ouais. femme du Royaume-Uni, votez toutes avec moi contre ces machos.
La plupart des femmes, selon son âge, sont favorables. Hein.
Oui, c'est pour ça, exactement ça, je rebondis là-dessus, parce que déjà, c'est rare d'entendre une femme comme ça s'exprimer de façon si ouverte sur le Brexit, je ne sais pas, je n'avais pas entendu... Oui, et elle le dit elle-même dans son papier que 60% des indécis sont des femmes. Et j'ai trouvé ça intéressant, enfin, ça fait un contraste avec cette situation.
Pourquoi une union de machos ? Parce que la politique en Grande-Bretagne, elle est largement aussi machiste, voire plus qu'en Europe. Regardez le nombre de femmes députées européennes, le nombre de femmes commissaires, etc. Je pense qu'il n'y a pas, à rougir.
Il y a 35% de femmes au Parlement européen. Oui. Je crois que c'est la plus forte représentation.
25-24% au Royaume-Uni. Donc, c'est mieux au niveau européen.
Et il y a une forme de parité quand même du côté de la Commission européenne. Guillaume Balas, vous en pensez quoi de cette tribune « Moi, femme, je vote pour qu'on quitte cette union de machos »
Moi, franchement, je ne comprends pas du tout qu'on puisse insister sur son genre pour prendre une une position politique concernant l'Union européenne. Voilà. Enfin, s'il y a bien quelque chose, un espace où on a défendu le droit des femmes, c'est plutôt l'Union européenne. Si ça a mis la pression sur un certain nombre, notamment de pays, pour faire avancer les droits des femmes, je pense notamment au droit concernant l'avortement, eh bien, je pense que l'Union européenne a été un espace, pour le coup, très efficace.
Le congé maternité.
Ou le congé maternité.
C'était un truc,
absolument.
Je veux dire, la Grande-Bretagne, on a bénéficié
à plein. Très sincèrement, c'est comme pour les droits sociaux. Pour regarder l'argumentaire, notamment des travailleurs, qui est excellent de ce point de vue, ils savent très bien que si jamais le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, pour aller défendre les droits sociaux des travailleurs sans un certain nombre d'acquis européens, ça serait beaucoup plus compliqué.
Maintenant, Eric, avec vous, on va parler du dialogue social français. On entend beaucoup parler en ce moment, c'est pas toujours simple, mais qu'en pense-t-il du côté allemand ?
Eh bien, c'est la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui a publié un article assez dur sur ce qui se passe en ce moment en France, non pas tant sur les prises de position de François Hollande récemment, puisque le même journal d'ailleurs l'avait déjà plutôt félicité pour son rapprochement sur les positions de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, et c'est ce qu'il redit, et le François Hollande s'est rapproché de l'agenda 2010 de Gerhard Schröder dans ses discours, il parle d'une social-démocratie à la française. Mais enfin, le journaliste n'est pas dupe, il parle, il dit que tout ça c'est des vœux pieux prématurés et prononcés à la légère. Et surtout ce qu'il constate, c'est que le dialogue en France a fait long feu, et il essaye de comprendre pourquoi. Alors c'est intéressant parce que, comme il dit, quand les barricades se mettent à brûler, la plupart des présidents baissent les bras. Il y a en France, constate-t-il, encore cet héritage de la Révolution française, le cœur système politique remonte à 1789 et repose sur un rapport direct au pouvoir. Ce qui fait que, constate-t-il, eh bien, que les intermédiaires ne sont pas reconnus. Et donc, cette agressivité en permanence, cette éruptivité de la société française, et il en conclut évidemment que les réformes sont quasi impossibles, surtout en fin de mandat, comme en ce moment, et a fortiori, évidemment, chez nous, dans l'Hexagone.
Voilà, quand les barricades se mettent à brûler, on baisse les bras, ou quand les syndicalistes commencent à arracher les chemises, on voit les bras aussi. Guillaume Ballas.
Non, moi je ne crois pas du tout à tout ça. Je crois que le gros problème qu'il y a, c'est un problème de méthode. Quand, par exemple, la flexisécurité a été mise en place par M. Rasmussen au Danemark, on a négocié sur plusieurs années. C'est-à-dire que le problème, c'est que les hommes politiques français et femmes politiques français n'ont pas une vision claire de la réforme sociale. C'est quelque chose qui les intéresse assez peu. C'est des politiciens classiques, j'allais dire. Et finalement, comprendre les mécanismes de comment ça marche, le marché du travail, comment ça marche, la négociation, on n'en a pas une grande habitude. Et je crois, moi, qu'il aurait été extrêmement bon, vu notamment les positions, par exemple, de la CFDT et de la CGT sur la question de la sécurité sociale professionnelle, de commencer dès 2012 une grande négociation qui aurait pu courir sur plusieurs années pour aboutir à une réforme globale du marché du travail. Là, la réalité, je vais vous dire, je ne veux pas jouer au populisme, mais sincèrement, quand j'ai lu notamment les injonctions bruxelloises concernant la France, il y avait quasiment un paragraphe entier où était contenue la loi. Bon, donc comment vous voulez expliquer après aux gens que c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi dans l'intérêt
de la France ? Là, on parle des recommandations économiques de la Commission européenne.
Oui, c'est dans les GOP, mais il faut voir que ces recommandations, elles sont négociées avec le gouvernement français et approuvées par. Mais là où je rejoins Guillaume Ballas, ça m'inquiète parce que je suis de plus en plus d'accord avec lui. Donc est-ce que je suis pas en train de dériver vers l'extrême gauche ? Ça me fait peur.
C'est ce qu'on disait en début d'émission.
Voilà, c'est que le véritable problème, c'est effectivement celui de la méthode. Je pense que les Français sont... C'est exactement ce qui s'est passé en 1995, lorsque Alain Juppé, alors Premier ministre, est venu au Parlement et a annoncé une série de réformes qui, toutes individuellement, étaient très bonnes, mais à prendre ou à laisser en bloc, ce qui a déclenché un mouvement de grève jamais vu en France. Et le résultat, c'est que ça a empêché la réforme pendant 15 ans. Et le drame français, moi j'en rajoute un autre, c'est que qui font ces réformes ? Ce sont des énarques. Des gens qui ne connaissent rien au marché du travail, qui n'ont jamais bossé. François Hollande, il n'a jamais bossé de sa vie autrement que comme homme politique. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'est une entreprise. Macron ne sait, enfin un peu plus, parce que lui était dans la banque, mais enfin, voir à quel niveau. Ce sont des énarques. Et ça, je crois que les Français ne supportent plus d'avoir des gens qui ont une garantie de l'emploi, garantie de la retraite, qui ne démissionnent jamais de la fonction publique, qui voient leurs droits s'accumuler, dire aux gens, eh bien, pour vous, c'est la flexisécurité, mais pour moi, politicien, c'est la sécurité, la garantie, car je ne toucherai jamais aux avantages acquis des fonctionnaires. Et c'est le drame français. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui se sent de plus en plus exposée et
abandonnée. En parlant d'avantages acquis, direction la Suisse avec vous, Eric. Et vous allez nous parler de l'homme par qui tout a commencé.
Mais quoi ? Oui, on ne le connaît pas beaucoup. C'est un homme, un Suisse, il vient de Bâle. Et il s'appelle Daniel Henny. Il a 50 ans. Les Suisses vont se déterminer sur un référendum sur le revenu universel. Et c'est lui qui porte cette idée depuis des années. bien l'idée d'un revenu universel. Alors cet homme-là, il n'est pas complètement rêveur, il est un peu homme d'affaires, il a un café dans lequel il a un peu appliqué ses recettes au cœur de Bâle, installé dans une ancienne banque. Quand je dis qu'il a un peu appliqué ses recettes, c'est que les gens n'ont pas une obligation de consommer. C'est un café qui est aussi à la fois un lieu de vie, on y fait du théâtre, on y travaille. Et c'est là que s'est faite la campagne sur le revenu universel. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Eh bien, il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut renverser la logique actuelle, nous explique Le Temps, non pas travailler pour obtenir un salaire, mais avoir un revenu pour mieux travailler et vivre. Donc les Suisses votent ce dimanche sur ce projet porté par ce Daniel Henni, un grand personnage.
Voilà, Richard Corbett, ça a aussi été une idée au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un revenu universel, inconditionnel au niveau européen? Ça rendrait quand même l'Union européenne populaire. A priori, on n'a peut-être pas l'argent dans les caisses, mais...
Oui, bah pour l'instant, c'est une compétence nationale, mais ce serait une chose à faire si on le fait. Ce serait mieux fait si on le faisait au niveau européen. Et pourquoi il y a tant de pression sur ça? C'est parce que ces dernières années, il y a une remontée quand même des inégalités, et des inégalités frappantes. C'est visible pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un mouvement très fort dans beaucoup de nos pays, pour faire quelque chose quand même, pour surmonter cette croissance des inégalités.
Guillaume Ballas, une initiative pour un revenu de base inconditionnel?
Alors, c'est une chance et un piège. La chance, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion de plus en plus grande entre le travail et le revenu. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que, bon, pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le nombre d'heures aujourd'hui de travail est en train de diminuer partout en Occident. Donc on a un problème. Ça ne marche plus comme avant. Et donc du coup, c'est de là, d'où vient d'ailleurs cette idée du revenu de base, c'est de déconnecter le revenu du travail. Le piège, c'est qu'un certain nombre d'ultralibéraux considèrent que ça doit être pour solde de tout compte. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le revenu universel, et puis ça va y être, l'ensemble des prestations sociales sont données, et puis après, chacun court comme il peut. Là-dessus, évidemment, je ne serais pas d'accord.
Merci beaucoup, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, pour cette nouvelle revue de presse passionnante, comme toujours. Merci, Maya de la Baume, de Politico. J'ai plus le droit de dire que vous êtes pétillante. C'est non. Jean Quatremer qui me l'interdit.
C'est un machisme total.
Merci, Guillaume Ballas, eurodéputé socialiste français. Merci beaucoup, Richard Corbett. Et bon courage à vous pour les trois prochaines semaines. Vous avez le droit de continuer à parler. Tenez bon, partez. Merci Jean, merci aux équipes du Parlement européen qui ont mis cette émission en son et en image. Merci à Alexandre Rougier de l'avoir préparé. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Toujours le même jour, toujours la même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.